Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission de ce début d'année, et j'en profite d'ailleurs pour présenter mes vœux à toutes nos auditrices et nos auditeurs, puisque c'est la première émission de l'année, nous avons décidé de nous intéresser à la situation au Proche-Orient et en particulier en Israël avec le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir comme Premier ministre dont le gouvernement a été intronisé le 29 décembre dernier, donc c'est tout récent. Et on a besoin d'avoir des explications et de comprendre un petit peu la situation avec effectivement une situation politique inédite, puisque des formations les plus radicales qui aient jamais été représentées à la Knesset, le Parlement israélien, sont désormais intégrées dans la coalition de Benjamin Netanyahou et donc font partie intégrante du gouvernement, et en particulier une figure très contestée de la vie politique israélienne, Itamar Ben-Gvir, qui est donc le chef d'un parti d'extrême droite qui est devenu le nouveau ministre de la Sécurité. Alors pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Didier Billon.
Bonjour.
Bonjour Didier, merci d'être avec nous pour cette première émission de l'année. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie. Et ma première question, c'est justement de vous demander qu'est-ce que ça veut dire finalement pour Israël et pour la région que d'avoir ce Premier ministre-là avec cette coalition-là dans ce moment de l'histoire.
C'est infiniment problématique, pour ne pas dire catastrophique, à la fois pour l'État d'Israël et à la fois pour la région. Alors essayons de procéder par ordre, comme vous le rappeliez à fort juste titre. Je pense que le cabinet qui a été constitué par Netanyahou est le plus à droite de l'histoire d'Israël. Pour autant, les qualificatifs de droite et de gauche en Israël n'ont plus du tout le même sens qu'ils pouvaient avoir il y a 20 ou 30 ans et qu'ils peuvent avoir en France. En réalité, désormais, la véritable ligne de partage, c'est sur la gestion de la population palestinienne. Alors à la fois les Palestiniens qui sont citoyens d'Israël, citoyens de seconde zone, certes, les citoyens d'Israël, et bien sûr les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et à Gaza. Or, de ce point de vue, et c'est ça qui est singulièrement inquiétant, il y a un glissement de la société israélienne, dont le résultat des élections est l'expression la plus limpide. Ce glissement de la société israélienne, elle est infiniment inquiétante parce qu'elle s'oppose à toute perspective d'une solution de paix, d'une solution reconnaissant les droits des Palestiniens à posséder leur propre État. Et donc, en réalité, cette large partie de la société israélienne, incarnée par le nouveau gouvernement, sont dans une perspective de négation totale, de négation absolue des droits reconnus par le droit international de la population palestinienne. Et c'est ça qui est évidemment très inquiétant. Simplement, je relisais des sondages qui ont lieu en Israël il y a quelques semaines, au moment de la campagne électorale, et j'ai constaté que 55% des Israéliens interrogés étaient pour que l'armée puisse tuer les terroristes purement et simplement, sans autre forme de procès, et que 71% des Israéliens étaient pour la peine de mort pour tous ceux ou toutes celles qui avaient du sang sur les mains. Ces chiffres sont indicateurs, mais ils sont profondément inquiétants. Et je crains fort que le camp de la paix, ou ce qu'on appelait le camp de la paix en Israël, il y a encore quelques années, étant désormais réduit à la portion congrue, étant totalement marginalisé, ce gouvernement se déchaîne totalement en multipliant notamment la création ou l'agrandissement des colonies, et deuxièmement, en se déchaînant contre toute forme de contestation de la part des Palestiniens. Et là aussi, pour mémoire, je rappelle qu'au cours de l'année 2022, il y a eu 140 Palestiniens, souvent de très jeunes gens, qui ont été purement et simplement assassinés parce qu'ils manifestaient leur mécontentement ou leur réprobation de l'attitude de l'armée d'occupation. Donc on est dans une situation absolument catastrophique. Ça, c'est du point de vue des équilibres intérieurs à la société israélienne et au rapport avec la Cisjordanie et Gaza. Peut-être pourra-t-on ensuite évoquer la dimension régionale et internationale.
Alors, on y reviendra effectivement, mais juste pour insister là-dessus, le gouvernement précédent était dirigé, en tout cas au début, par Naftali Bennett, qui venait également de la droite, on va dire, radicale. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas vraiment un changement d'orientation, qu'on est plutôt dans une continuité, parce que depuis au moins une décennie, et même avant, quand les travaillistes gouvernaient, il y a toujours eu une certaine bienveillance envers le développement des colonies. Et finalement, est-ce que ce n'est pas tout simplement le retour un peu de Benjamin Netanyahou, qui, rappelons, à 73 ans, eh bien, maintenant un record de longévité en tant que Premier ministre en Israël. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la réalité crue d'une politique du fait accompli qui désormais s'assume totalement dans les discours alors qu'elle était dans les actes et pas toujours assumée dans les discours ?
Vous avez raison. En tout cas, je suis assez d'accord avec cette analyse. Néanmoins, même si effectivement il y a une véritable continuité, notamment dans le processus de colonisation. J'y attache bien sûr une très grande importance parce que les colonies, c'est le lieu de friction physique, matérielle, entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc c'est évidemment très important. Et alors là, on peut considérer que tous les partis qui ont été au gouvernement depuis maintenant 1967, en gros, ont tous été favorables à la colonisation, y compris les travaillistes qui pourtant proclamaient qu'ils étaient contre. Bon, ceci étant posé, il faut quand même prendre en compte le fait qu'à mon avis, il y a un changement qualitatif dans la composition même de ce gouvernement. Vous avez évoqué dans votre introduction liminaire le cas de Itamar Ben-Gvir. Alors évidemment, il est symbolique. C'est un suprémaciste juif, donc, qui est devenu ces derniers jours ministre de la Sécurité nationale quand même. C'est donc un poste absolument charnière. Ce Ben-Gvir est un ancien militant du parti du rabbin Meir Kahane, qui avait fondé un parti déclaré terroriste en Israël même. Mmh. Quand même, il faut bien comprendre ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui se réclamaient à une époque du terrorisme siègent au gouvernement. On peut aussi rappeler que ce même Ben-Gvir avait, jusqu'à l'année dernière, dans son bureau, le portrait de Baruch Goldstein. Alors je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent de qui est Baruch Goldstein, mais c'est celui qui a tué de sang-froid 29 Palestiniens dans le tombeau des patriarches à Hébron. Donc on est dans une situation qui est quand même nettement plus grave que tout ce qu'on avait pu constater. Je pense donc en ce sens qu'il y a un changement. Et puis rappelons-nous aussi que le jour même de l'intronisation de son gouvernement, Netanyahou, il y a donc quelques jours, qui doit donner des garanties à cette extrême droite fascisante, a déclaré purement et simplement, et on peut retrouver la citation, je cite de mémoire, que le peuple juif a un droit, alors dit-il, exclusif et incontournable sur la totalité de la terre d'Israël. Ce qui veut dire que désormais, mais il l'assume publiquement, sous la pression de son extrême droite, que le gouvernement, et il le dit, promouvera, développera les colonies dans toutes les parties de la terre d'Israël. Et il cite la Galilée, le Golan, le Negev et la Judée-Samarie. La Judée-Samarie, c'est, dans le langage des juifs religieux, la Cisjordanie. Ça veut donc dire que désormais, la colonisation se poursuivra, mais comme vous dites, elle existait déjà. Elle n'a jamais cessé depuis au moins 1967, mais que désormais, tout ce qui faisait semblant de se référer au droit international est balayé d'un revers de main, et donc il n'y aura plus aucune limite. Et d'ailleurs, sur un autre sujet, on a bien vu que hier matin, Itamar Ben-Gvir, donc désormais ministre de la Sécurité nationale, allait parader sur l'esplanade des mosquées, dont on se souvient, là aussi on peut faire un peu d'histoire, que le dernier dirigeant israélien qui avait fait cela était un dénommé Sharon, et que cette incursion sur l'esplanade des mosquées avait conduit à la deuxième intifada. Oui. Alors je ne sais pas si dans les semaines à venir il va y avoir une nouvelle intifada, nul ne peut le prédire, mais c'est une véritable provocation et c'est le piétinement purement et simplement de ce qui faisait un accord international après 1967 où il était interdit aux juifs religieux de prier sur l'esplanade des mosquées. Et entre parenthèses, la Jordanie, qui est la garante de cet accord international, a vivement protesté hier contre cette incartade de Itamar Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées et dont on sait en plus que Netanyahou n'y était pas favorable et qu'il avait conseillé à son ministre de faire cette incartade peut-être dans quelques semaines. Il n'en a eu que cure. Donc, ce qui veut dire que l'extrême droite la plus radicalisée, la plus fascisante, a aujourd'hui quasiment carte blanche et fait ce qu'elle veut. Et elle tient, si vous me passez l'expression, elle tient Benjamin Netanyahou par la barbichette. C'est-à-dire qu'il a besoin de cette extrême droite pour maintenir sa majorité à la Knesset, le Parlement israélien. Son gouvernement a été investi par 63 voix sur une totalité de 120 députés, donc c'est une majorité juste. Et donc, si les 14 députés d'extrême droite décidaient de ne plus soutenir Netanyahou, eh bien, son gouvernement s'écroulerait. Donc, on est dans une situation où il y a une intrication entre les enjeux de petite politique aigrie et électoraliste et d'équilibre de la majorité à la Knesset, le Parlement israélien, et des enjeux qui relèvent là de l'histoire, c'est-à-dire de l'avenir du peuple palestinien.
Alors justement, on va dire que la situation politique au niveau international, elle a aujourd'hui, enfin, ces dernières années, elle a plutôt favorisé les desseins de la ligne dure des gouvernements israéliens, puisque d'une part, aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, il n'y a plus beaucoup de voix pour dénoncer la politique d'Israël, même quand elle est brutale et radicale. Et immédiatement, il y a des injonctions de se taire. Et puis, les États arabes, qui quand même, pendant longtemps, avaient fait de la cause palestinienne un acte de foi, aujourd'hui, eh bien, il y a une forte normalisation des relations avec Israël, que ce soit les pays du Maghreb ou du Proche et Moyen-Orient, si bien qu'on a l'impression que l'autorité palestinienne, outre ses turpitudes internes, est très isolée et peut-être même elle n'a jamais été autant isolée sur le plan international, alors qu'Israël a plutôt conforté ses positions.
Tout à fait, tout à fait. Ces fameux accords dits d'Abraham qui ont permis à Israël de nouer des relations officielles, parce qu'il ne faut pas être naïf, elles existaient oui. officieusement auparavant, mais maintenant elles sont officielles avec des États tels que Bahreïn, tels que les Émirats arabes unis, tels que le Soudan et le Maroc. En fait, vous avez évoqué les États du Maghreb, il y en a pour l'instant.
Oui, enfin, je pensais principalement au Maroc, effectivement.
Absolument.
Officiellement.
Mais c'est très important. Ce qui est très important aussi, et alors je ferai un tout petit recul de quelques semaines, c'est la Coupe du Monde de football. Vous allez dire, qu'est-ce que vient faire cette Coupe du Monde dans cette affaire? Mais il a quand même été très marquant que, notamment au vu des succès de l'équipe nationale du Maroc, il y ait de nombreux Arabes qui venaient assister aux matchs de football, qui agitaient des drapeaux palestiniens. Et ce n'est pas seulement de l'anecdote. C'est-à-dire qu'autant je suis totalement d'accord avec vous pour dire qu'un certain nombre de gouvernements des États arabes ont fait ami-ami avec Israël, en acceptant pour certains d'entre eux officiellement de rétablir des relations économiques, politiques et diplomatiques, autant il me semble que dans les populations, parmi les citoyens des différents États arabes, ce qu'on a appelé la cause palestinienne reste très présente à leur cœur. Donc ça veut dire que dans les États où existe une opinion publique, alors ce n'est pas le cas aux Émirats arabes unis, ce n'est pas le cas à Bahreïn, bien évidemment, mais c'est le cas au Maroc, les gouvernements seraient bien fondés à ne pas pousser trop loin leur soutien à Israël. Et d'ailleurs, hier même, on a vu qu'il y avait un certain nombre de protestations, y compris de la part des Émirats arabes unis, par exemple. Alors je ne sais pas si cela ira très loin, mais ça veut dire que la condamnation de la promenade, vous me pardonnerez, je mets des guillemets au mot, de monsieur, enfin j'appellerais ça plutôt la provocation de monsieur Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées, n'a pas été apprécié, que la Jordanie, je l'ai déjà évoqué, a vivement condamné cet acte, que les États-Unis, le gouvernement de M. Biden, a condamné assez fermement cette provocation de M. Ben Gvir. Est-ce que tout cela sera suivi des faits? Je n'en sais, fichtre rien. Mais je ne suis pas de ceux qui considèrent que la cause palestinienne est passée aux poubelles de l'histoire et par perte et profit. Je pense qu'il y a encore une résistance sourde qui a beaucoup de mal à s'organiser politiquement, ça c'est un fait. Mais en réalité, nous savons fort bien, et c'est là l'aspect peut-être le plus critiquable, voire peut-être le plus dramatique de la situation, c'est que la dite communauté, la soi-disant communauté internationale, regarde ailleurs. Or, nous savons qu'au vu de la dégradation du rapport de force entre l'État d'Israël, son gouvernement et les Palestiniens, une solution ne peut venir que s'il y avait une forte réaction de la dite communauté internationale, notamment des États arabes, bien évidemment, mais pas que, que les Européens réagissent, bon sang. Je ne sais pas si on en prend le chemin, je n'en ai pas l'impression. Pour l'instant, il y a eu un certain nombre de condamnations verbales de la provocation de M. Ben Gvir. Est-ce que cela ira plus loin? Honnêtement, je ne suis pas véritablement optimiste. Et pourtant, nous savons que pour débloquer ce dossier qui ne cesse de s'envenimer, de se dégrader au détriment des Palestiniens, ne peut venir que d'une initiative dite forte de la communauté internationale. Est-ce qu'on en prend le chemin? Encore une fois, je ne suis pas véritablement optimiste.
Oui, la communauté internationale semble regarder ailleurs et de plus en plus. Un dernier mot peut-être, parce que c'est bientôt la fin de notre émission. C'est qu'il y a une bagarre quand même sur les mots employés. Par exemple, on sent bien que quand la comparaison avec l'apartheid est évoquée, ça n'est qu'une comparaison, hein, on ne peut pas évidemment assimiler totalement ce qui se passe dans les territoires occupés à ce qui se passait en Afrique du Sud, mais on voit bien qu'il y a des réactions très vigoureuses de l'État d'Israël, du gouvernement. Mais finalement, que peut-il advenir des 5 millions de Palestiniens si la logique de l'annexion se poursuit, si ce n'est une situation avec, dans un même territoire, des populations qui ont des droits différents?
On ne perd que les batailles qu'on ne mène pas. Donc nul ne peut dire si aujourd'hui on pourra réinstaller cette question palestinienne au centre de l'agenda international. Nul ne le sait. Mais ce que je sais, c'est qu'à ne rien faire, on est certain que ce dossier passera par perte et profit. Alors pour autant, on n'est jamais sûr de gagner. Mais il est évident, vous avez évoqué la question de l'apartheid, qu'une organisation, par exemple, comme Amnesty International, dénonce en ces termes la situation des Palestiniens d'Israël comme un régime d'apartheid et d'une importance considérable. Et croyez-moi, les dirigeants israéliens considèrent que c'est un de leurs défis principaux. Aujourd'hui, ils ne considèrent pas qu'une réaction des Palestiniens en Cisjordanie est le principal danger. Mais ils considèrent que du point de vue de la bataille de l'opinion au niveau international, il faut tout faire pour éviter que cette condamnation du régime israélien comme d'un régime d'apartheid puisse se développer. Et c'est donc, je pense, là un des points faibles de l'État d'Israël sur lequel les démocrates, les progressistes au niveau international peuvent jouer. Il y a bien sûr le niveau diplomatique qu'il est nécessaire de relancer puisqu'il est totalement au point mort, mais il y a aussi la bataille politique au niveau des organisations progressistes, des associations non gouvernementales, des partis politiques, etc., etc. Tout cela représente une force au niveau international qui pourrait aboutir à des mesures contre Israël, à des mesures de rétorsion, à des boycotts, parce que les dirigeants israéliens, forts de leur impunité internationale, se croient absolument tout permis, et cela n'ira que de mal en pis avec ce gouvernement dont on a décrit rapidement le centre de gravité fascisant. Donc il est clair que c'est la seule mobilisation internationale qui pourra tenter de modifier les rapports de force, mais ce n'est pas gagné à l'avance, mais je ne vois pas d'autre solution. Donc il faut continuer à être, à mon avis, mobilisé à tous les niveaux où on peut agir, intellectuellement, de façon militante, et ça ne sera pas vain, je le crois.
Merci beaucoup Didier Billon pour vos réponses à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie, et on a eu plaisir à vous écouter pour essayer de comprendre un petit peu la situation fort complexe de la politique en Israël et de la situation au Proche-Orient. À très bientôt Didier, et on se retrouve dans quelques instants dans la deuxième partie de l'émission.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission consacrée cette semaine à la situation politique en Israël suite aux élections législatives et au retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir, dont le gouvernement a été intronisé le 29 décembre dernier, avec, on l'avait signalé dans la première partie de l'émission, une coalition formée de partis politiques, y compris les plus radicaux, et qui regardent essentiellement vers la droite et l'extrême droite et les formations les plus religieuses. Après Didier Billon, j'ai le plaisir de recevoir pour évoquer ce sujet avec nous Sylvain Sipel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste, membre du comité éditorial de Orient 21, qui est un média en ligne et qui est spécialisé sur les questions du Proche et du Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous avoir avec nous dans l'émission. Et peut-être ma première question, ce sera tout simplement de vous demander finalement ce que signifie ce énième retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir, qui est, rappelons-le, le Premier ministre qui aura la plus longue longévité à la tête de l'État d'Israël, mais avec des changements politiques notables, c'est-à-dire qu'il a agrégé au sein de sa coalition des formations politiques qui, pour certaines, n'avaient jamais été au pouvoir. On pense notamment au parti d'extrême droite de Itamar Ben-Gvir. Et on a aujourd'hui, selon les observateurs, mais vous nous direz ce que vous en pensez, probablement le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays.
Alors, c'est une très longue évolution, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement, sauf le précédent gouvernement qui, pour la première fois depuis longtemps, Netanyahou n'avait pas pu redevenir Premier ministre, mais hormis ce gouvernement-là, à chaque fois qu'il arrivait au pouvoir, on disait « jamais il n'y a eu un gouvernement aussi à droite ».
C'est vrai.
Alors évidemment, à chaque fois, les choses s'accumulent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un changement qui est à la fois une forme d'aboutissement, c'est-à-dire que c'est la fin d'un processus, puisque Netanyahou a fait rentrer dans son gouvernement des gens dont il faut rappeler quand même qui, il y a 30 ans, avait été interdit par la Cour suprême de participer aux élections parce qu'ils étaient considérés comme un parti raciste. Vous avez évoqué Ben-Gvir. Ben-Gvir, à l'époque, était le responsable des jeunesses de ce parti, et qu'on appelait CAR. Ce gouvernement avait été interdit de participer aux élections pour un motif strictement défini, qui était que c'était un parti considéré comme raciste. Et le racisme à l'égard des Arabes, évidemment. Voilà, la route a été longue. Alors, en réalité, la question intéressante, c'est de savoir quelle est la part de pratique politique dans ce que fait Netanyahou, et quelle est la part fondamentale. Parce que, d'une certaine manière, Netanyahou partage en grande partie les idées de Ben-Gvir. En même temps, il ne partage pas forcément ses manières de procéder. Ben-Gvir est vraiment un militant aux méthodes. Il a été, vous savez, il était dans les listes du Shin Bet de ce qu'on appelait le terrorisme juif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement violent dans le rapport aux Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui inquiète l'armée israélienne. Parce que il est, on l'a vu dès sa nomination, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller sur l'esplanade des mosquées. Et on sait quelles sont les conséquences quand on va sur l'esplanade des mosquées et pourquoi on le fait. Et donc, d'une certaine manière, c'était un aboutissement parce que finalement, il n'y avait pas tant de différence entre Ben-Gvir et d'autres partis d'extrême droite qui étaient régulièrement au pouvoir. Et d'une certaine manière, il y a quand même, ça marque quand même un changement très profond. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, Netanyahou avait publiquement déclaré que jamais il ne prendra quelqu'un comme Ben-Gvir dans son gouvernement. Alors, je pense, moi, personnellement, que ça s'explique essentiellement par la situation politique de Netanyahou, qui est aux abois, qui a des affaires criminelles, enfin, des
procédures judiciaires en cours contre lui.
Oui, qui ont déjà commencé, et certains n'ont pas encore commencé. Et il a besoin d'une majorité qui lui assurera une forme d'impunité, qui permettra d'annuler les poursuites contre lui. Et pour ça, il a été prêt à faire de grandes concessions à ses partis, parce qu'il avait besoin d'eux pour constituer cette coalition gouvernementale. Alors, la question qui va se poser pour lui, c'est combien de temps ça va durer? C'est-à-dire, jusqu'où peut-il aller dans les concessions? Il ne souhaitait pas tellement... Il a essayé de cadrer les choses avec la venue de Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées. Mais là, ça n'est que la première des tentatives de Ben-Gvir de changer réellement l'attitude du gouvernement sur la question palestinienne. Et d'accélérer les processus de colonisation, d'accélérer les processus d'expulsion des populations, etc., etc. Et ça, on voit déjà qu'il y a des inquiétudes du côté de l'armée. L'armée israélienne qui, d'abord, a perdu des prérogatives, puisqu'on a donné à l'alter ego de Ben-Gvir, on lui a donné la gestion des affaires civiles dans les territoires occupés, ce qui jusqu'à ce jour était entre les mains de l'armée. Et donc la capacité de nuire de l'extrême droite a été augmentée de manière extrêmement notoire. Ça, c'est ça le vrai changement qui est advenu. Combien de temps Netanyahou sera-t-il en mesure de le contrôler? Parce qu'ils ont un moyen de pression extraordinaire. C'est-à-dire, il suffit qu'ils disent, bon ben, vous voulez pas de nous au gouvernement, on quitte le gouvernement, et Netanyahou perd sa majorité.
Oui, Ben-Gvir, il a 14 députés, et la majorité est à 60, il y a 63 députés dans la coalition de Benjamin Netanyahou.
4, mais donc, il suffit qu'il en perde 4, ou 5, disons. Et or, ils sont 14. Donc, alors ils sont divisés entre eux, peu importe, il y a 2 partis, il y a 2-6, enfin ils sont 13 en fait, et un qui est tout seul, mais ça n'est pas très important. Il suffit qu'ils perdent 5 députés de l'extrême droite et sa coalition tombe. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, les négociations qu'il y a eu pour former le gouvernement ont été extrêmement longues, elles ont été reportées plusieurs fois, et ça a montré... que ça obligeait Netanyahou à faire des concessions qui étaient très au-delà de ce qu'il souhaitait faire et qu'il a dû accepter. Alors on peut penser qu'il est plus roué, il a beaucoup plus d'expérience que les autres, etc., et que donc il va réussir à maîtriser les choses, mais on peut tout à fait imaginer que la pression de l'extrême droite va continuer. Et, enfin, à vrai dire, je n'aime pas cet exprès. L'idée de dire que c'est eux l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est déjà Netanyahou. Mais c'est une extrême droite vraiment radicale. Et de ce point de vue-là, il faudra voir jusqu'où il pourra aller dans les concessions et jusqu'où il acceptera d'aller dans les concessions, parce qu'il risque sa peau. Et il risque sa peau, en particulier au plan international.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire justement que jusqu'à présent, les différents gouvernements d'Israël avancer un peu masqué, essayer de conserver un vernis de respectabilité. Il y avait une pratique qui était l'accentuation de la colonisation et une annexion rampante des territoires, mais qui n'était pas assumée dans les discours. Maintenant, on a l'impression que les discours sont raccords avec les actes de tous les gouvernements israéliens, puisque ça fait quand même maintenant décennies qu'on va dans cette direction.
Oui, je vais vous suivre à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un basculement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qui s'est fabriqué au fur et à mesure. Mais là où vous avez raison, c'est que si vous voulez, Netanyahou lui-même était beaucoup plus clair sur la question de la colonisation que ses prédécesseurs travaillistes, par exemple. Ou même que Menachem Begin, qui était un homme du Likoud. Il était plus radical. On a vu ce qu'il a fait, par exemple, à Obama, sur la question de pas seulement sur la question de l'Iran, mais même auparavant. Quand Obama est arrivé au pouvoir, il a immédiatement cassé toute velléité de modifier la politique israélienne dans les territoires occupés. Et il l'a fait de manière, un peu quasiment vulgaire, quoi,
par rapport
au président. Donc, de ce point de vue-là, il était déjà dans une forme de rupture avec ses prédécesseurs. Et ce processus-là arrive à son aboutissement. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui tiennent les manettes, et en particulier les manettes de la sécurité, c'est-à-dire ceux qui touchent au territoire occupé, à Jérusalem par exemple, eh bien ce sont les plus radicaux des radicaux de l'extrême droite. Ce sont les plus partisans du transfert des Palestiniens. Quand on dit transfert en Israël, c'est le mot gentil pour ne pas dire expulsion. C'est le mot poli. Mais quand on parle de transfert, c'est de ça dont il s'agit. Et Ben-Gvir, il dit très ouvertement qu'il est partisan du transfert. Ce que, par exemple, Netanyahou n'a jamais dit. Donc, oui, Israël avançait masqué, mais avançait quand même de moins en moins masqué. Et si on regarde, si on prend les choses à partir de la deuxième intifada jusqu'à aujourd'hui, vous savez, moi, j'étais à l'époque journaliste au Monde et un haut officier israélien, quand la première fois que les soldats, qu'après l'échec de Camp David, la première fois que l'armée israélienne est retournée dans Gaza, j'avais parlé avec un haut ministère israélien qui m'avait dit. Vous savez, quand la première fois que j'ai rentré dans Gaza avec l'armée, on a eu un appel de Powell, qui à l'époque était au département d'État, et qui a dit il n'y en est pas question, il y a des accords avec les Palestiniens, vous devez sortir instantanément, vous avez 6 heures pour débarrasser le terrain, etc. Et les Israéliens l'ont fait. Et puis, quelques temps plus tard, pour la deuxième fois, ils sont rentrés. Il m'a dit, bon, et cette fois-ci, c'est pas Powell qui a appelé, c'est son porte-parole. Et puis la troisième fois, ça a été qu'on l'a fait, ça a été un simple lampiste au département d'État américain. Et puis la quatrième fois, plus personne n'a appelé. Et ça, c'est la manière dont les Israéliens procèdent de manière générale.
C'est la politique du fait accompli.
Oui, c'est la politique du fait accompli, c'est mettre les gens devant les faits, et puis voilà, mais c'est trop compliqué de s'affronter à eux, donc voilà.
Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître aussi à Benjamin Netanyahou une résilience quand même assez exceptionnelle dans la politique intérieure, puisqu'il réussit, malgré les affaires judiciaires, malgré les difficultés, à rebondir, à revenir au pouvoir, et aussi à isoler l'autorité palestinienne et à faire en sorte que petit à petit, en neutralisant les Américains, les Européens, puis en passant des accords avec certains pays arabes, finalement, il efface progressivement le problème.
Vous savez, un des grands mots d'ordre du mouvement sioniste, c'était un acre et ensuite encore un acre. C'est-à-dire, on rogne en permanence. On avance, on avance, on avance, etc. Bon. Et parfois, il faut ruser, parfois, on peut le faire ouvertement. Mais on n'arrête pas d'avancer. De ce point de vue-là, oui, c'est un champion. Netanyahou a su faire ça de manière assez admirable. C'est un très bon politicien, hein. Faut pas faire d'erreur. Mais il faut bien comprendre que ce qui a fondamentalement évolué, disons, sur les deux dernières, depuis le début de la deuxième intifada, c'est le basculement de la société israélienne. C'est-à-dire que le sionisme s'est aujourd'hui complètement réduit à l'aspect colonial. Il ne reste du sionisme que le colonialisme, quoi. Il y a toute autre ambition a disparu. Tout ce qui touche à l'émancipation des autres, tout ça n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est d'abord l'identitarisme, c'est-à-dire que le fait qu'Israël est un État juif et il est vraiment réservé aux juifs jusqu'à présent. on faisait plein de choses qui montraient qu'il y avait entre les citoyens juifs et les citoyens non-juifs d'Israël, il y avait des différences notoires, mais aujourd'hui on peut l'inscrire dans la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi constitutionnelle. Et ça, c'est une immense différence. C'est-à-dire que, et il faut bien comprendre, ça a pris des années et des années de débat à la Knesset avant que ça puisse être adopté. C'est-à-dire que c'est tout un processus, et c'est un processus qui concerne la société israélienne, qui a amené les Israéliens à donner à l'extrême droite israélienne la plus radicale 14 élus à la Knesset. Et c'est ça qui explique, c'est ça le véritable aboutissement de cette évolution. C'est parce que la société israélienne a évolué à ce point que d'abord la gauche sioniste n'existe quasiment plus. Puisqu'effectivement, on ne peut pas à la fois...
Oui, il n'y a plus de clivage entre la droite et la gauche en Israël, puisque les travaillistes, ce qu'on appelait et le mouvement pour la paix, a totalement disparu au niveau électoral, pratiquement.
Les travaillistes de gauche ont totalement disparu, et les travaillistes habituels, d'abord, ils ne sont plus travaillistes, on ne sait même pas où ils sont, et puis ils sont centristes sur la question palestinienne. Mais, si vous voulez, les travaillistes aujourd'hui sur la question palestinienne, ils tiennent les propos que le Likoud tenait à 30 ans. Mm. Voilà. Alors, et ceux qui étaient vraiment de gauche, bon, ben, ils ont disparu parce qu'ils ont pas, ils sont pas parvenus à rentrer à la Knesset, ils n'ont pas obtenu les 4 députés nécessaires pour avoir un parti à la Knesset, et ils n'existent plus électoralement, ils pourront revenir, mais même s'ils avaient fait 4 députés, ils faisaient 4 députés depuis maintenant 15 ans, donc voilà, sur 120, voilà ce qu'ils représentent.
Alors juste un dernier mot, parce qu'on arrive vers la fin de notre émission, malheureusement, on aurait encore beaucoup de choses à se dire, peut-être juste un dernier mot pour justement pour essayer de comprendre un petit peu comment les choses peuvent évoluer. Si on considère que la solution des deux États est largement enterrée par la situation que vous venez de décrire dans la société israélienne, ça veut dire qu'on va vers une annexion rampante. Et donc, est-ce que le mot qui fait crisper aujourd'hui, notamment les autorités israéliennes d'apartheid, n'est pas finalement le risque majeur et la situation qu'on va avoir de fait d'ici quelques temps?
Écoutez, le terme apartheid est employé par le journal Haaretz, qui est le principal, qui est l'équivalent du Monde, si vous voulez, en Israël, qui est un journal d'opposition à la politique de Netanyahou et à la politique de la droite, qui est clairement un journal d'opposition, et qui est devenu une forme de seul pôle d'expression de l'anticolonialisme en Israël. Ce journal-là utilise le terme apartheid quotidiennement et 10 fois par jour dans ses publications. Donc, c'est une affaire qui dure maintenant, là encore, depuis des années. Au fur et à mesure, l'évolution de la population, pas seulement de la population israélienne, mais l'évolution des choses sur le territoire. Quand vous avez sur un même territoire deux populations et qu'il y en a une qui a plus d'eau que l'autre, qui a des routes différentes, qui a plus d'accès à l'électricité, qui a plus de... Enfin, qui a des droits que l'autre n'a pas, qui subit un système juridique qui est différent de celui que subissent les autres. Bref, quand vous avez ce genre de situation sur un même territoire, bon, ben, il n'y a pas d'autre terme. Alors moi, je sais que ça énerve beaucoup les Israéliens, mais quand ils me disent que c'est énervant, je leur demande, je me fiche du terme qu'on utilise. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça qui se passe? Oui. Alors ils disent, non, c'est pas vrai. Alors si c'est pas vrai, alors c'est vraiment un apartheid en plus, si le déni intervient. Mais c'est ça la réalité. Donc cette réalité, moi j'ai, là encore, je ne vais pas faire mes actes de bravo, mais j'ai encore. Moi j'avais interrogé un conseiller de Yitzhak Rabin, un conseiller juridique d'Yitzhak Rabin. C'était en 2002. Et à un moment, je lui ai posé la question que vous venez de me poser. Est-ce que vous ne craignez pas que ça aille vers l'apartheid? Il m'a regardé, il m'a dit, mais que ça aille vers, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est déjà l'apartheid. Et c'était il y a 20 ans. Et c'était un conseiller de Rabin. Alors, il avait démissionné, mais c'était un ancien conseiller de Rabin. Donc, si vous voulez, c'est le problème de fond des Israéliens, c'est qu'aujourd'hui, ça les énerve qu'on dise apartheid, mais ça ne les énerve pas de faire des sondages pour savoir s'il faut expulser la population palestinienne. Et il y a des sondages réguliers. Ils ne considèrent pas que c'est illégitime de poser une question, êtes-vous favorable au transfert ? C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez plein d'Israéliens aujourd'hui qui disent Ben Gurion a fait une erreur en 48, qu'il fallait virer tout le monde et il a oublié de virer 10% des Arabes et maintenant ils sont 1 million et quelques, plus tous ceux qui sont dans les territoires. Non, il fallait virer tout le monde. Et si l'occasion se présente, il ne faudra pas hésiter. Il faudra y aller. Et ça ne choque personne, ça s'entend à la télévision, à la radio, par des gens tout simples et aussi par des hommes politiques. Donc c'est ça les mentalités dominantes aujourd'hui en Israël. Et c'est vrai que la situation que vivent les Palestiniens est une situation d'apartheid.
Merci Sylvain Sipel pour vos propos très francs et très clairs. On rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes sur le média Orient 21, média en ligne sur lequel on peut retrouver vos articles, toujours très, très intéressants et très documentés, parce que vous avez aussi une histoire. Vous avez été correspondant du Monde, notamment à New York.
Oui.
Et donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur Radio Orient. C'était la première émission de l'année. On était ravis de l'avoir faite avec vous. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci, au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.